Bonjour à tous. C'est toujours un petit peu étrange pour moi d'être ici, même si certains voient surtout ma ressemblance avec mon frère, ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que moi j'ai grandi ici. Et revenir dans le pays de Jacques, c'est un sentiment un peu ambigu pour moi, parce que je vois des gens que j'aime, des gens avec qui j'ai grandi, qui sont là. Et en même temps, quand je viens comme ce matin, eh bien je ne reconnais pas les endroits où j'ai grandi. Alors j'étais un petit peu en avance ce matin, alors je me suis promené dans Prefsaint, et je ne reconnais plus rien. Quand j'étais jeune, il y a longtemps, avec mon cousin Franck, on allait à l'église et on partait de la route des Matiniens, et puis on partait un petit peu à la bourre. Et je suis repassé ce matin ici et je ne reconnais rien. Et ça, c'est troublant parce que je me dis le passé est révolu. Tout est passé. Et puis, comme j'étais en avance ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne le fais jamais. Je suis allé au cimetière de Prefsaint. Parce qu'il y a une très belle église que j'aime là, et puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compté pour moi qui reposent. Et dans ce cimetière, j'ai vu la tombe de mes grands-parents. Et c'était écrit dessus, Dieu est fidèle. Et puis sur une autre tombe, qui est une tombe importante pour cette communauté, puisque la tombe d'Abraham Gezer, qui est le premier qui est venu de Suisse fonder l'église, qui est à l'origine de cette église, l'église de Saint-Genis, il est écrit, j'ai gardé la foi. Et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui reste. Les bâtiments changent, les routes changent, les immeubles grandissent, mais ce qui reste, c'est cet héritage. C'est la foi. Alors c'est un petit peu de ceci que j'aimerais vous parler ce matin, un petit peu d'histoire, désolé. Un petit peu d'histoire et de foi. En 2017, aujourd'hui, eh bien, nous fêtons en Europe et dans le monde quelque chose qui est important pour nous, puisque nous fêtons le début de la réforme protestante. En effet, il y a 500 ans, si on peut mettre une diapo, voilà. Il y a 500 ans, eh bien, a débuté la réforme protestante, ce qu'on appelle l'Église protestante est née un petit peu il y a 500 ans. Alors, protestant, ce n'est pas un mot qu'on emploie beaucoup finalement, nous, hein. Cette communauté, elle s'appelle la communauté évangélique. Et protestant, bon, on l'utilise un peu moins. On aime se dire chrétien, on aime se dire évangélique, mais protestant, c'est moins évident. Parce que protestant, ça fait un petit peu râleur. Ça fait un peu jamais content. Et c'est un mot qu'on a un petit peu laissé aussi aux églises réformées. Mais nous sommes des protestants. Je pense que c'est une erreur et c'est un héritage que nous pouvons vraiment revendiquer et être fiers. Les hommes qui nous ont précédés, les hommes qui ont commencé la réforme en 1517 n'étaient pas parfaits. Et ici, nous sommes réunis autour de la seule personne qui, pour nous, nous le croyons, était parfaite, Jésus-Christ. Mais ces hommes-là, malgré tout, eh bien, ils ont osé faire quelque chose. Et ces hommes, eh bien, ce sont des témoins, ceux dont parle la Bible, ceux qui nous ont précédés. Et leur histoire nous enseigne. Et en 1517, eh bien, cette réforme, elle commence quand un homme, en Allemagne, décide de se lever pour dire non à une situation qu'il juge scandaleuse. Ce n'est pas le premier à faire ceci. Et lui va persister et il va rencontrer des circonstances favorables. Et cet homme s'appelle Martin Luther. Et il appartient à cette grande nuée de témoins. Alors parler de Luther ici, évidemment, c'est un petit peu provocateur, puisque nous sommes dans le pays de Calvin. Mais Luther n'est pas sur le mur des réformés ici à Genève. Mais c'est lui qui commence le premier. Et Calvin, quelques dizaines d'années plus tard, va prendre la suite. Le premier à se lever au moment de la réforme s'appelle Martin Luther. Alors j'aimerais vous parler de lui un instant et puis comparer avec un épisode biblique aussi que je trouve intéressant et je trouve que la comparaison est riche. Parler de la réforme, c'est un sujet un petit peu sensible aujourd'hui parce que cette réforme, c'est quelque chose qui va diviser profondément l'Église entre les protestants, donc, qui vont protester, et les catholiques. Et il va s'en suivre des choses épouvantables dans la région ici, comme ailleurs en France et en Europe, des guerres terribles. Et nous n'avons pas à être fiers de tout ce que les protestants du passé ont fait. C'est un sujet à aborder avec prudence parce qu'aujourd'hui, ces catholiques dont les protestants se sont séparés. Les catholiques aujourd'hui, ce sont nos plus proches parents. Dans notre société, regardez un petit peu la société qui nous entoure, une société où la vie chrétienne, la religion chrétienne a du mal à trouver une place chez nous, est repoussée. Et puis, dans un monde très très laïcisé comme ça, eh bien, les catholiques, ce sont nos cousins, ce sont nos parents, ce sont nos frères souvent. Alors regardons un petit peu se passer avec sagesse et en se gardant des simplifications, regardons un petit peu ce que cet homme a fait, ce Martin Luther. Donc première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est ce qui se passe en cette année 1517, début d'un grand changement. Et pour comprendre ce qui s'est passé en 1517, il faut comprendre un petit peu ce qu'était l'Église de ce temps-là. L'Église de ce temps-là, c'est l'Église de Rome, c'est l'Église catholique, dans la région ici comme ailleurs. La cathédrale de Genève, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Hein. L'Église, elle est importante ici, elle dépend directement de Rome. Et cette Église, elle est absolument sans concurrent en Occident, elle est toute puissante à l'époque. Et c'est elle qui dit ce qu'il faut croire. Et c'est d'autant plus facile pour elle de dire ce qu'il faut croire que l'Église de ce temps-là a le monopole de l'écrit. Les seuls qui savent lire, ce sont des membres du clergé. Ils lisent la Bible en latin et ils enseignent ceci au peuple. La parole du pape fait autorité, c'est lui qui dit ce qu'il faut croire. Et cette Église de ce temps-là, eh bien, elle croit au paradis et à l'enfer. Et si vous avez visité des églises gothiques, on voit bien sur les tympans ces sculptures très imagées et souvent un petit peu effrayantes du paradis et de l'enfer. Et l'Église de ce temps-là, et le pape, et les évêques, les curés, disent que pour éviter l'enfer, eh bien, il faut bien se comporter. Il faut se marier, être baptisé. Il faut confesser ses péchés aux prêtres. Il faut faire pénitence plusieurs fois dans l'année. Il faut faire des pèlerinages quand on peut pour essayer de réduire la somme de ses péchés, pour pouvoir être accepté au paradis. Et cette Église de ce temps-là, finalement, elle parle peu de foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui est très personnel, qu'on ne peut pas mesurer. C'est quelque chose qui est difficile à quantifier. Et donc, en insistant sur les œuvres, les bons comportements des chrétiens, eh bien, cette Église, elle a créé une situation d'angoisse au Moyen-Âge. Et on voit beaucoup d'endroits, à la fin du Moyen-Âge, cette peur de la mort qui est une peur terrible. On voit des représentations très très sombres, très très noires. Et derrière cette peur de la mort, en fait, il y a la peur de l'enfer. Les gens ont peur de l'enfer parce que les gens, ils sont comme vous et moi. Ce matin, dans la vérité de leur être, ils savent comment ils sont. Ils savent bien que s'il faut rentrer au paradis par rapport à ce qu'on a fait, à ce qu'on pense, à ce qu'on essaye de faire, la marche est haute. Et les gens de ce temps-là, eh bien, comme nous, ils sentent bien que pour eux, ça va être difficile. Ils ont peur de ne pas pouvoir rentrer au paradis. Alors l'Église, elle s'est adaptée. Au Moyen-Âge, devant cette angoisse généralisée, eh bien, les responsables de l'Église ont réfléchi, de l'Église catholique, et ils ont décidé eh bien, de réduire l'angoisse en créant un lieu entre le paradis et l'enfer. Ce lieu qu'on va appeler le purgatoire. Le purgatoire, c'est une salle d'attente, où après sa mort, les âmes vont rester un temps important ou court, ça dépend, pour se purifier, pour pouvoir aller au paradis. On va donc créer ce lieu entre le paradis et l'enfer pour répondre à cette angoisse du peuple. Alors comment se purifier quand on est au purgatoire, dans la salle d'attente? Eh bien, on peut se purifier grâce à la prière de ceux qui sont vivants, les gens de la famille. Et puis on peut se purifier grâce à leur générosité. Et là, c'est carrément une idée géniale. On va créer une façon de réduire le temps dans la salle d'attente, dans le purgatoire, et cette façon, ce sont des promesses de pardon des péchés contre de l'argent, ce qu'on va appeler des indulgences. On va proposer au peuple de financer l'Église, de donner de l'argent, et en échange, on va promettre que on attendra moins longtemps dans la salle d'attente pour aller au paradis. Alors vous avez bien compris, je n'ai pas encore cité la Bible pour l'instant parce que j'aurais du mal, hein, puisqu'il n'y a aucun élément dans la Bible qui justifie la création de ce purgatoire. Aucun. Alors si on peut passer, je crois que j'en ai mis une d'indulgence, ça on peut passer. Voilà, ça c'est une indulgence de l'époque de Luther, hein, qui est en allemand, pour les gens qui font un petit peu d'allemand, où l'on voit sur le dernier mot de la ligne 2, par exemple, hein, qu'on va absoudre les péchés, absolvire, absoudre les péchés contre eh bien, le chèque qui a été fait à l'époque, ou plutôt le don en argent. Donc on va absoudre les péchés, réduire la peine, pardonner les péchés de celui qui a donné de l'argent ou de quelqu'un de sa famille. Pour résumer, en fait, dans ce temps-là, ce sont les œuvres qui sauvent. Et l'Église, elle invente des moyens pour les croyants d'être sauvés qui sont à leur portée. Parce que tout le monde peut donner de l'argent, un petit peu ou beaucoup. Et puis en même temps, ça remplit les caisses de l'Église. Et ça, c'est une superbe opération financière, puisqu'on entreprend la création de la plus grande Église du monde, qui est l'Église Saint-Pierre du Vatican, si vous l'avez vue. C'est une splendeur. Mais cette splendeur, elle a été financée par la crédulité du peuple, par cette angoisse de la mort et ces gens qu'on a fait payer pour aller au paradis, pour réduire le temps dans la salle d'attente. Voilà la situation de l'Église, hein, on est vers 1500, et dans cette situation, un jeune moine qui s'appelle Luther, si on peut le voir, ce Martin Luther, voilà, va tout bousculer. Alors ce Luther, c'est un moine, c'est un catholique convaincu dans une famille qui n'était pas vraiment croyante, hein, ses parents étaient des petits bourgeois. Et lui, il a décidé de faire un vœu à Sainte-Anne, la mère de la Vierge. Et donc, il rentre dans les ordres. Et dans ces ordres catholiques, il va se former et il va devenir un intellectuel. Il va faire des études de droit, des études de théologie. Et il va devenir moine. Un moine, donc, augustin. C'est un des monastères urbains. Donc, c'est un moine qui a accès à l'écrit, qui a accès au savoir, etc. Et ça, c'est important aussi parce que je crois que c'est comme pour nous. Dieu se sert de nos formations, quelles qu'elles soient. C'est pas utile d'être diplômé et d'avoir fait de hautes études pour croire. Mais par contre, quelles que soient nos formations, des formations simples, et puis des formations de la vie, et puis des formations universitaires, Dieu s'en sert, comme il s'en sert pour d'autres, on le voit dans la Bible, et on le verra tout à l'heure. Et il va se servir de Luther. Martin Luther, dans l'Église de ce temps-là, il est inquiet pour son salut, parce qu'il ne voit pas trop comment il pourrait atteindre aussi lui-même cette marche du paradis. Et un voyage à Rome l'ébranle un peu plus, parce qu'il voit ce chantier phénoménal de Saint-Pierre, et il sait comment l'argent, il sait d'où vient l'argent, et il est très choqué par ce système d'indulgence qui a été mis en place. Il est en colère, il est énervé, il est révolté, mais il n'a pas de réponse. Et la réponse, il va la trouver dans la Bible. Et cet intellectuel, cet homme qui a beaucoup lu, qui maîtrise très très bien les langues anciennes, eh bien, ce sont six petits mots qui vont le renverser. Et ces six petits mots, on les trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Alors, si on peut passer. Alors, voilà le passage en entier. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est dans Romains 1. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Six petits mots, le juste vivra par la foi, qui vont renverser cet homme. Un verset qui, en six petits mots, rend hors sujet et périmé tout le système des indulgences. Si c'est la foi qui sauve. Si le juste vit par la foi, on peut donc rentrer au paradis, malgré une vie imparfaite. Et surtout, on peut rentrer au paradis du premier coup. Si le juste vivra par la foi. Paul le dit ailleurs dans l'épître qu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 2, un passage qui est connu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu, la foi. Un cadeau gratuit, pas quelque chose qu'on achète à force d'argent pour essayer de gagner du temps, un don. Un cadeau de Dieu qui est fait à chaque homme personnellement, sans autre condition que celui qui a payé une fois pour toutes, Jésus-Christ, qui a payé pour tout le monde, pour chacun personnellement, une fois pour toutes. Et je pense à Jésus qui, sur la croix, peut dire, puisque c'est la foi qui sauve, peut dire au brigand qui est à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Sans condition que la foi. Et donc, en 1517, la réforme, elle commence le jour où ce moine, de rien du tout, ce petit moine d'Allemagne, dans une petite ville, écrit et fait afficher que les indulgences sont un mensonge, sont une invention et un scandale. Il se lève pour dire non et il va provoquer une tempête immense. Et les pressions pour le faire taire, pour le faire renier, vont être immenses. Des pressions du pape, des pressions de toutes les autorités politiques, à commencer par l'empereur, le plus grand empereur de l'histoire, peut-être Charles Quint. Les pressions de certains de ses amis. Et devant toutes ces pressions, cet homme va rester debout, sans bouger d'un millimètre sur l'essentiel. Son seul argument, il est écrit. Comme Jésus, face au diable, il est écrit dans la Bible. Alors, deux idées à retenir très simplement sur cette année 1517. Le début de la réforme pour nous, dont nous sommes les héritiers, c'est premièrement, c'est la Bible comme seule autorité. Ce que dit le pape est faillible, ce que disent les évêques, ce que disent les hommes, tout le monde peut se tromper, moi le premier, la Bible est la seule autorité. Et d'ailleurs, une des premières choses que Luther va faire, c'est de traduire cette Bible en langue du peuple, en allemand, et c'est un très grand changement. Les protestants, dont nous sommes les héritiers, sont ceux qui vont donner la Bible au peuple, cette Bible que le clergé gardait pour lui. Et ça, c'est un héritage qui est un héritage à continuer, mais un héritage dont nous pouvons être fiers. Donc, première idée, la Bible comme seule autorité, ça c'est l'idée de Luther. Et puis la deuxième idée, l'idée centrale, c'est la foi. Et il faudrait du temps pour parler de ça. Ma foi, votre foi, petite, grande, chancelante, est un don de Dieu. C'est quelque chose que je cultive. C'est quelque chose que j'essaye de faire grandir. C'est quelque chose qui est douloureux parfois. Mais si je l'ai, c'est pas parce que mes parents étaient dans cette église. C'est un don de Dieu. Alors voilà pour 1517. Et pour enfoncer un peu le clou, j'aimerais comparer avec vous cette année 1517, cet épisode de Martin Luther, avec un épisode biblique que l'on trouve loin dans le passé, dans le livre de Daniel. Je vais vous lire quelques passages, si vous voulez suivre ou m'écouter. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 3. On est environ 2000 ans avant Martin Luther. Et donc, on est dans un monde différent. Il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de chrétiens. Des juifs sont déportés à Babylone, et parmi ces juifs, il y a Daniel, qui travaille et qui est formé, qui est quelqu'un de compétent, un intellectuel aussi, qui travaille pour l'empereur de Babylone, le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Et il y a également d'autres juifs qui travaillent là. Donc on est dans un monde différent, mais je trouve qu'il y a des comparaisons intéressantes. Je vous lis quelques passages en sautant des versets, je vous dirai quand. Daniel, donc, livre de Daniel, chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens, s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Verset 13. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène ces Juifs, Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main, peut nous délivrer pardon, de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » C'est un passage formidable, la suite est formidable, et on la connaît bien avec la fournaise, etc., et la délivrance. Et dans ce passage, j'aimerais relever avec vous seulement trois points pour tenter une comparaison un peu audacieuse. D'abord, premier point, cette statue d'or immense. Cette statue, elle symbolise la puissance de celui qui l'a élevée, elle symbolise la richesse, elle symbolise la domination, elle symbolise son orgueil aussi. C'est le symbole d'un pouvoir qui est sûr de lui, qui demande une obéissance sans discussion et qui demande que les plus grands personnages du royaume, ceux qui sont cités, viennent s'agenouiller, se prosterner. C'est le symbole d'un pouvoir qui fait la loi. Le roi Nabuchodonosor a décidé que ça serait comme ça. Évidemment, cette statue d'or, elle me fait penser au pouvoir du pape en 1517 à l'époque de Luther. Puissance, richesse et orgueil. Prétention de dire ce qu'il faut faire, ce qui est juste et ce qui est faux. Un pouvoir qui demande la soumission à tous. Parlons de ce roi justement, deuxième point, Nabuchodonosor. Et observez avec moi un petit peu les stratégies qu'il va mettre au point pour faire obéir ces trois juifs. Verset 13, Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi se met en colère. Alors, j'aime pas bien les gens qui se mettent en colère face à moi, mais là, c'est pas simplement quelqu'un que j'apprécie, ou mon patron, ce serait pas très agréable, c'est le roi Nabuchodonosor, c'est le plus grand roi de la terre, qui se met en colère. Et ça devait être très très impressionnant. Et ce roi Nabuchodonosor, il pourrait écraser ces trois juifs sur un ordre et les faire tuer. Mais il veut les soumettre, il ne veut pas que les écraser, il veut les faire obéir. Il tente donc de les impressionner. Et puis la voix se fait un peu plus douce. Et le roi donne dans sa grande clémence une deuxième chance aux Hébreux. Il leur propose une porte de sortie. Vous avez refusé de vous agenouiller, je vais vous donner une deuxième chance. Vous allez écouter le son des instruments, et ils sont nombreux. Et quand le son des instruments sera là, vous pourrez vous agenouiller. Et vous avez compris ma comparaison, ce sont les mêmes méthodes que la hiérarchie catholique va mettre en place pour faire plier le genou à Luther. On va menacer sa vie, on va menacer ses proches, on va l'impressionner. Et puis on va tenter de négocier également. On va essayer de couper la poire en deux. On va essayer de trouver un compromis. On va essayer de discuter avec lui pour le soumettre. Enfin, troisième point, eh bien, parlons de ces trois Juifs, ces trois Hébreux, qui vont rester seuls debout lorsque tout le monde se met à genoux. Alors déjà, des fois, dans une salle d'église, quand on chante, il n'y en a qu'un qui est debout au milieu, déjà, il est bien dans son idée, parce que des fois, ce n'est pas facile. Mais là, c'est différent, c'est sous la pression. On est obligé de s'agenouiller, et eux restent debout. Et devant cette convocation près du roi, très impressionnante, eh bien, ils vont avoir cette phrase incroyable. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main. Notre Dieu peut nous délivrer de la mort s'il veut, mais de ta main à toi, c'est sûr qu'il nous délivrera. Tu peux menacer notre vie, Nabuchodonosor. Tu peux même tenir tes promesses et tuer nos corps. Mais Dieu nous délivrera de ta main. Tu nous dis, roi Nabuchodonosor, tu nous dis que pour être sauvés, pour sauver nos vies, il faut que nous nous mettions à genoux. Mais nous sommes déjà sauvés. Tu ne peux pas nous sauver. Tu peux juste prendre nos vies, prendre nos corps. Nous sommes déjà sauvés. Nous agenouiller devant ta statue d'or ne nous sauvera pas. Parce que c'est la foi qui sauve. Et la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous obtiendrons en ayant peur ou en t'obéissant. Cette foi ne vient pas de nous, ni de toi. Afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Le Dieu de ces trois Juifs est le même Dieu que le Dieu de Luther. C'est notre Dieu. Et c'est ce Dieu que la Bible célèbre et dévoile du commencement à la fin. C'est le Dieu que Luther décide de proclamer haut et fort en 1517, un Dieu qui sauve en faisant don de la foi, un don gratuit, un don suffisant, et un don qui rend tellement dérisoire les plus grandes statues d'or et les plus belles promesses écrites de paradis. Et en proclamant ceci, eh bien Luther va devenir le premier protestant. Et ce mot de protestant, eh bien, ça nous permet de le comprendre vraiment. Un protestant, ce n'est pas quelqu'un qui râle. Un protestant, c'est quelqu'un qui proclame. C'est un mot très positif dans le langage du XVIe siècle. Protester, c'est proclamer. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes des proclamants. Si ça vous va mieux que protestant. Nous sommes des proclamants. Ce que Luther a fait. Proclamer que Dieu sauve gratuitement au peuple. Nous proclamons le Dieu de la Bible, un Dieu que les protestants vont rendre accessible en traduisant le texte pour le peuple. Alors j'aimerais terminer avec la Bible justement. Les six petits mots qui ont changé la vie de Luther et qui ont apporté de grands changements, le juste vivra par la foi, ces six petits mots, eh bien Luther ne les a pas inventés, il les a lus dans l'épître de Paul aux Romains. Et Paul lui-même ne les a pas écrits de lui-même, il ne les a pas inventés. Paul, il cite quelqu'un d'autre, il cite l'Ancien Testament. Et il cite un passage extraordinaire du livre d'Habacuc, que je n'avais pas vraiment lu depuis très longtemps, on tombe rarement dessus. Et Paul cite le livre d'Habacuc. Et j'aimerais vous laisser ce passage incroyable et le relire, prendre le temps d'y réfléchir un petit peu. C'est le chapitre 2 du livre d'Habacuc. Et je trouve que ce passage est incroyable parce qu'il nous parle de beaucoup de choses, il nous parle de Luther, il nous parle de nous. « Je veux, dit Habacuc, je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la, sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc, Paul, Luther, et nous aujourd'hui, et cette parole qui circule au cours des siècles. C'est pour ça que j'aime l'histoire. Cette parole qui circule, qui reste vivante, qui ne meurt pas, une parole de vie, le juste vivra par la foi. Et quand je vous vois ce matin, évidemment, je vois des têtes connues et tellement de choses me reviennent en mémoire. Ici, j'ai grandi. Ici, je me suis fait baptiser. Je suis allé au groupe de jeunes ici. Je vois des têtes nouvelles que je ne connais pas et c'est une bonne chose également. Je vois mes parents, mais ils ne sont pas là ce matin. Je vois mon frère, je ne sais pas s'il est là, enfin je viens le voir aussi. Je vois mon cousin, je vois mon filleul, je vois des amis. Et j'aimerais vraiment, pour tous, connus ou pas, laisser ceci. Cette parole qui vient des profondeurs de notre histoire. Depuis Habacuc, bien avant Jésus-Christ, jusqu'à nous. Qui que vous soyez, connu ou pas, où que vous en soyez, quelle que soit votre foi, la foi est un don de Dieu. On ne l'a pas hérité. C'est Dieu qui la donne. Eh bien, demandons-lui, chacun, d'augmenter notre foi, comme dit la Bible. Et que Dieu nous aide en 2017 à être à notre poste et à tenir sur la tour comme eux avant nous, Habacuc, Luther, Paul et d'autres l'ont fait. Que Dieu nous aide tous. Soyez bénis. Amen.
Merci Laurent pour ce partage. On reprendra le sujet du 500e anniversaire lors du culte en commun, qui sera, dont le message sera apporté par un prof de théologie. Donc je partage avec vous les annonces. Alors demain, ce n'est pas habituel, mais donc il y aura un fan club extraordinaire. Donc le Femme Club s'est retrouvé, je vous rappelle, lundi passé pour avancer le ménage dans la cuisine suite aux travaux de démolition qu'on a eu le samedi d'avant. Et puis il y avait tellement de boulot qu'elles n'ont pas pu finir. Donc elles se retrouvent encore demain en début d'après-midi à 13h45. Et en plus, c'est un Femme Club ouvert. Donc si d'autres personnes veulent se joindre, elles seront les bienvenues. Mardi, on a donc les cellules. Donc la cellule de Gex se retrouve chez Didier Loredan, celle de Prefsaint, j'imagine, toujours chez Emmanuel et Rebecca. Et puis pour Collonges, Farge et Perron, c'est donc chez Pierrick et Lydia. Mercredi, il y a une rencontre supplémentaire pour préparation fête de Noël. Donc vous vous rappelez, il y a environ 3-4 semaines, Marie-Lou et Nancy nous ont fait une annonce d'un projet pour la prochaine fête de Noël. On est bien à l'avance, mais c'est bien de s'y prendre à l'avance lorsque les projets sont importants. Donc le but, c'est de se retrouver pour préparer cette fête de Noël. Et donc le but, c'est de se répartir, vraiment que ce soit une fête de Noël de l'ensemble de l'Église. Donc il faut des ressources déjà au niveau répartition des rôles pour cette soirée, qui sera donc un petit peu comme une sorte de pièce de théâtre. Ou une comédie. Donc il faut des personnes qui s'engagent au niveau du contenu, ensuite des personnes qui s'engagent au niveau des décors, au niveau des habillements, dans plein de domaines. Et puis c'est important aussi que les différents groupes qui constituent le fonctionnement de l'Église soient représentés aussi. Donc au niveau groupe de jeunes, école du dimanche, femme club, enfin, etc. C'est important aussi qu'on ne soit pas non plus trop nombreux, parce que ce n'est pas forcément évident à gérer. Donc, on vous laisse voir pour qui c'est le mieux de participer, afin que cette prochaine fête de Noël puisse déjà se mettre en route dans de bonnes conditions. Il y a aussi besoin de personnes pour toute la partie logistique, s'il faut monter un décor, etc. Donc il y aura aussi besoin de ressources par rapport à ça. Sinon, dimanche prochain, on a un culte de baptême. Ça, c'est chouette. On se réjouit. Je vous rappelle qu'il y a des inscriptions pour l'apéritif dînatoire qui va suivre le culte de baptême. Alors, on prévoit beaucoup de monde. Donc, c'est important aussi qu'il y ait beaucoup de choses à partager. Sinon, ça va être un petit peu tristouné, comme on dit. Donc je vois de là que le tableau n'est de loin pas rempli, puis il y a encore une deuxième page qui est derrière. Alors je vous invite vraiment à vous inscrire pour que ce soit vraiment un moment chouette après. Et puis pour le pendant, comme il y aura beaucoup de monde, on va s'organiser de la façon suivante. On ne va pas mettre des chaises dans toute la salle. On va mettre des chaises dans toute la partie avant de la salle, de façon à permettre à ce que des personnes soient debout dans la partie du fond et puis au fond ici aussi, de façon à ce qu'on puisse tous rentrer. Les enfants seront en bas avec un système de projection. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de laisser les places assises, bien sûr, pour les personnes les plus âgées, les personnes qui ont de la peine à rester debout, mais aussi pour les personnes invitées. C'est les personnes invitées qui viennent peut-être pour la première fois dans une église, qu'elles se sentent vraiment accueillies et qu'elles se sentent bien, quoi. On aurait aussi besoin, puisqu'il y aura passablement de monde, de personnes pour organiser le rangement des voitures. Là, je pensais que 3 ou 4 jeunes pourraient peut-être s'engager pour ça. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est important de le prévoir parce que si les voitures se garent n'importe comment, eh bien, ce n'est pas pratique. Donc, si à la sortie du culte, 3 ou 4 pouvaient venir vers moi, comme ça, on peut s'organiser et mettre ça en place. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport au culte des baptêmes ? En tout cas, on se réjouit, on vous invite aussi à continuer de prier pour les personnes qui se feront baptiser. Donc, Audrey, Elia et Olga. J'en profite aussi pour avancer un petit peu dans les annonces, parce que dimanche prochain, on ne va pas faire d'annonces détaillées pour la semaine d'après. Le culte sera déjà assez long comme ça. Donc, le mardi 21, il y aura donc une étude biblique pour les aînés à 14h30. Et mardi 21, on aura aussi le soir notre assemblée générale ordinaire. Donc vous avez reçu les convocations, les procès-verbaux de l'année passée, etc. On vous invite, si bien sûr, à venir. On invite tout le monde à venir, bien sûr les membres, mais on invite aussi les personnes qui ne sont pas membres à participer, parce que ça fait aussi partie de la vie de l'Église. Et c'est important que le plus de nombre de personnes puissent participer. Si des membres ne peuvent pas venir, on vous invite à transmettre un pouvoir. C'est important parce qu'on a besoin d'un certain quorum, donc on a besoin d'une certaine participation, sinon l'Assemblée Générale ne peut pas se réunir. Dur, si on est un certain nombre ici et puis que l'Assemblée Générale n'est pas valable, on doit la reporter. Et pour éviter cela, il y a un moyen, bien sûr c'est de venir, mais aussi... si vous ne pouvez pas venir, de transmettre un pouvoir à quelqu'un. Et donc, chaque personne peut recevoir jusqu'à 2 pouvoirs. Et puis, si vous ne trouvez pas, ben, ce n'est pas compliqué. Vous donnez pouvoir au conseil d'anciens et ça marche comme ça. Donc, la semaine prochaine, donc, je pense que les activités sont affichées. Le samedi 25, encore quelque chose qui n'est pas habituel, qui reprend... Le samedi 25 à 17h, temps de louanges en commun, et explosion de louanges qui reprend donc à l'église du Réveil à Gex. Donc samedi 25, pas samedi qui vient, le samedi d'après, à 17h à Gex. Et c'est un moment fort entre les églises aussi, et on vous invite vraiment à y participer, ce sont des chouettes moments. Et puis un grand merci à Jacques qui a mis pas mal d'énergie pour que ça redémarre, c'est chouette. Et puis il y a aussi les musiciens qui suivent, enfin, c'est vraiment quelque chose de bien qui repart. Je vous rappelle la demande qui a été faite par Jacques Yosti, on ne va pas rentrer trop dans les détails, qui recherche une famille d'accueil pour sa fille qui a 16 ans, et qui peut être fille au père pendant un mois en été, depuis début juin jusqu'à fin août. On veut penser aux personnes qui souffrent aussi. Donc on veut penser à Déborah qui s'est blessée le genou, une entorse, une mauvaise entorse. Voilà, on pense à toi. C'est pas évident forcément, on est bloqué à la maison, en arrêt de travail, etc. Puis les douleurs aussi. On veut penser aussi parce que Déborah va passer un IRM, donc elle n'a pas encore de résultats exacts sur la blessure qu'elle a. Donc on veut prier aussi pour cela. On veut prier aussi pour Annelise. Pensez à Annelise qui ne va pas très bien, qui continue à souffrir. Annelise est maintenant hospitalisée à l'hôpital cantonal. Donc pensons vraiment à elle, ça fait maintenant longtemps qu'elle va pas bien, qu'elle souffre, que ses plaies ont de la peine à se cicatriser, etc. Et on veut vraiment la remettre à notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore quelques versets. Les derniers versets de la Bible, Apocalypse 22. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. » Bon dimanche et bonne semaine.